Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani sur l'ensemble de ses 85 radios partenaires. Il est 8h, mesdames, messieurs, voici le journal. Le M5RFP dit avoir introduit une plainte auprès de la Cour suprême pour la dissolution du Conseil national de transition. Le mouvement du 5 juin se dit confiant quant à l'aboutissement de cette action judiciaire. La situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel fait partie des sujets abordés au forum de Bamako qui s'est ouvert hier. Des panélistes recommandent de s'appuyer sur les solutions endogènes pour stabiliser le Sahel. Dans cette édition matinale, on va parler de la gestion des factures d'eau et d'électricité dans les cours communes. Cette gestion est parfois source de différends entre les locataires qui partagent un même compteur. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo à la mise en onde de Mamadi Keita. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le mouvement du 5 juin demande la dissolution du Conseil national de transition. Le M5 dit avoir introduit depuis janvier dernier une plainte auprès de la Cour suprême pour l'annulation du décret de nomination des membres du CNT. Pour des observateurs, cette action en justice est une suite logique de la contestation faite par le M5-RFP. Toutefois, ces analystes sont sceptiques quant à son aboutissement. Les explications avec Mamadou Samasekou.
Le dossier est en bonne voie et nous avons confiance en notre justice. Ces propos sont des avocats du mouvement du 5 juin qui précisent qu'ils ont des preuves que les gens ont été nommés sans qu'ils aient déposé de dossier. Maître Alifa Habib Kone, un des avocats du M5-RFP.
Et nous avons fait toutes les preuves qu'aucun dossier n'a jamais été déposé et que des membres du CNT ont été nommés sans être désignés sur une liste et sans déposer aucun dossier. Et cela viole non seulement les principes de légalité qui est la conformité au droit, mais également les principes de légalité entre les citoyens. Donc c'est ce qui vaut le dépôt de ces recours.
Pour certains observateurs, cet acte posé par le M5-RFP n'est pas surprenant. Selon eux, la charte même de la transition peut être mise en cause. Toutefois, ces analystes fondent peu d'espoir sur la suite qui sera donnée à ces recours. Boubacar Boukoum, politologue.
Je ne pense pas que le recours veut dire qu'on veut gagner contre le CNT ou contre l'État du Mali, mais c'est de dire qu'il y a un acte posé avec lequel on n'est pas d'accord et on saisit les juridictions pour ce faire. Naturellement, la justice, elle analyse le dossier et va donner une suite. Maintenant, quelle suite exactement, je ne saurais le dire.
Cette conférence du M5-RFP s'est tenue alors que les tractations sont en cours pour la formation du gouvernement. Le M5-RFP conditionne son entrée dans cette équipe à la satisfaction de ses revendications, dont la dissolution du CNT.
Pendant ce temps, le Mali est sans gouvernement depuis une semaine. Le Premier ministre Mokhtar Wane a achevé mercredi les consultations avec la classe politique et autres forces vives de la nation. Parmi les personnalités consultées figurent les représentants des mouvement signataire de l'accord pour la paix, mais aussi la coalition des forces patriotiques COFOP. Ceux-ci se disent disposés à accompagner le chef du gouvernement pour la formation de son équipe, mais à condition d'être satisfaits sur certains points. Arkia Touré.
La coordination des mouvements de l'Azawad s'est montrée favorable à accompagner le Premier ministre Mokhtar Wane pour la formation du nouveau gouvernement. Mais elle s'attend cette fois-ci à être représentée de façon qualitative à la hauteur de son rang, affirme Ataï Ag Mohamed, membre de la CMA.
Nous voulons être représentés de manière significative, au moins d'un ordre d'équité. Nous sommes un acteur clé. Nous pensons que notre participation doit être encore plus significative, mais surtout qualitative, parce qu'il y a des responsabilités au sein du gouvernement qui sont plus importantes que d'autres. Il n'y a pas que les conflits qu'on sait faire, on sait aussi faire la paix.
La coalition des forces patriotiques regroupant les partis politiques s'est dit aussi disponible à soutenir le Premier ministre dans sa démarche. Elle demande aux autorités de la transition de concentrer leurs efforts sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. Docteur Abdoulaye Amadouci, président de la COFOP.
Nous estimons qu'une transition, son rôle principal, c'est de remettre en place les institutions qui sont honorablement accepté et décidé par le peuple malien, le président de la République ainsi que les députés. Mais en allant dans d'autres directions, ce serait difficile de les faire ensemble au bout de 9 mois.
D'autres partis politiques ont aussi marqué leurs accords pour ce nouveau gouvernement après leur rencontre avec le Premier ministre Mokhtar Wane. Par contre, le M5-RFP n'a toujours pas confirmé sa participation à la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.
8h04 à Bamako, vous pouvez réagir à ces informations sur nos réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La situation sécuritaire dans le Sahel est plus qu'incertaine à cause de sa complexité, mais aussi du nombre d'acteurs qui y sont engagés. Cette déclaration est de Caroline Roussy, chercheuse et responsable Afrique à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques IRIS en France. Panéliste au Forum de Bamako qui s'est ouvert hier, elle propose aux dirigeants du Sahel d'opter pour des solutions endogènes pour stabiliser la région. Selon elle, les stratégies déployées par le G5 Sahel et les forces étrangères sont jusqu'ici dans l'impasse. Écoutons sa réaction au micro de Moussa Mali Sissoko.
La sahélisation des voies de solution, bien évidemment, passe par le G5 Sahel, un engagement plus prononcé du Tchad. Concernant l'européanisation des voies de solution, la task force Takuba est censée rassembler 2000 forces spéciales de l'ensemble de l'Europe 2021. Nous sommes loin du compte et par ailleurs, on peut noter que beaucoup de pays qui s'investissent dans cette task force ne connaissent pas nécessairement le Sahel. Donc des questions se posent. Dans quelle langue vont-ils parler? Dans quelle langue vont-ils échanger? Comment vont-ils faire la différence entre un civil et un djihadiste? Selon moi, les solutions doivent venir en effet du Sahel. Que veulent les Sahéliens? On voit bien qu'il y a des dissensions entre la France et des pays du G5 Sahel, notamment concernant le sujet assez délicat de la négociation avec les djihadistes.
Sur un tout autre sujet à présent, savez-vous que travailler plus de 55 heures par semaine augmente le risque de décès? C'est ce que révèle pourtant une étude de l'Organisation mondiale de la santé rendue publique cette semaine. Au Mali, beaucoup de travailleurs se plaignent du non-respect du temps de travail prévu par le Code du travail. Pourtant, des sanctions existent en la matière contre les contrevenants à cette loi. Les explications dans ce reportage de Fatih Attara.
Au Mali, les textes sont clairs sur le temps du travail qui est de 8 heures par jour. Et les employés sont tenus de les respecter, explique Mokhtar Konaté, inspecteur du travail et de sécurité sociale. Il affirme que cela vise à préserver la santé des travailleurs.
Le temps du travail, c'est tout un ensemble de recherches, de calculs avec des médecins, avec de grands spécialistes qui ont pu amener à réglementer le temps du travail. Par principe, la durée légale normale du travail, c'est 8 heures. Donc, une fois que les employeurs se mettent à excéder le temps de travail, surtout avec des activités très pénibles, à long terme, ça peut créer des maladies.
Pourtant, des employeurs font fi de ces textes en excédant ces temps de travail. Des agents d'une société de téléphonie nous confient en ces termes « Nous travaillons très souvent de 8h à 21h. Nous sommes réduits au silence et on se laisse faire car nous risquons de perdre nos emplois si nous parlons. » L'inspecteur du travail affirme que les employeurs qui s'adonnent à cette pratique s'exposent à des sanctions. Selon lui, des mesures sont prises.
Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui font recours à ces heures sans une autorisation préalable. Et à la matière, chaque fois que nous sommes saisis par les travailleurs, nous procédons à des sanctions. Avant d'aller aux sanctions, souvent nous interpellons, nous faisons des mises en demeure. Et quand nous voyons que l'employeur persiste, nous procédons à des pénalités. Souvent, on peut même engager des poursuites.
La loi a prévu des sanctions en cas d'aliénation des droits du travailleur, poursuit notre interlocuteur. Ces pénalités vont d'une amende de 10 000 à 18 000 francs CFA, jusqu'à une peine d'emprisonnement ferme de l'employeur, a-t-il expliqué.
Reportage signé Fatih Yatara. Venons à présent à notre dossier du jour. La gestion des factures d'eau et d'électricité est parfois l'origine des différends entre les locataires. Ces locataires qui partagent un même compteur ne s'entendent pas sur la répartition du coût de consommation. Le problème est de nos jours fréquent dans beaucoup de cours communes. Notre reporter Juliette Koulibaly s'est intéressée au sujet suivant son reportage.
Des contestations, des altercations ou même des injures, voilà des scènes auxquelles on assiste parfois lors du partage des factures d'eau et d'électricité entre les locataires. Certains ménages disent avoir adopté une méthode de paiement.
Pour l'électricité, chaque locataire a son compteur prépayé, mais il n'y a qu'un seul compteur pour l'eau. Cela occasionne souvent des disputes, car on n'utilise pas la même quantité d'eau.
Nous utilisons tous les mêmes compteurs d'eau, même les boutiquiers. Je suis seul et on me demande de payer 4 000 francs.
On s'est convenu permis que chaque locataire paye 1250 francs pour l'eau. Si tu es seul, et le reste sera partagé entre ceux qui ont leur famille.
Abdramane Sidibé a été délégué par ses colocataires pour gérer les factures d'eau et d'électricité pour éviter les problèmes. Il nous dit en quoi consiste son travail.
On fait les relevés des sous-compteurs. Après, donc, on cherche l'unité. On multiplie l'unité à ce que le locataire a consommé. Donc, par exemple, si c'est 200 francs par unité et que le locataire a consommé 5 kilowatts, donc on multiplie les 5 par 200.
Pour éviter ces problèmes récurrents, certains locataires optent pour des compteurs personnels ou des compteurs prépayés.
Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays. 5 nouveaux cas de COVID-19, 41 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires hier jeudi. La situation cumulée est donc de 14 226 cas positifs, 9 388 guéris et 512 décès. C'est ce qui nous conduit à la rubrique Actu COVID présentée ce matin par Elisabeth Ouellette.
Plusieurs initiatives ont été prises lors du sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Parmi elles figure l'autorisation des pays du continent africain à produire leur propre vaccin contre la COVID-19. Des spécialistes de la santé trouvent que de telles décisions sont des mesures efficaces dans la lutte contre le coronavirus sur le continent. Toutefois, ils estiment que beaucoup de travail reste à faire pour y parvenir. Professeur Seydou Doumbia, président du comité scientifique COVID-19 au Mali, répond aux questions de Khalifa Goïta.
C'est une bonne idée de développer les capacités locales de production de vaccins qui, à mon avis, va au-delà de COVID. Si on a des leçons à tirer de COVID, vous avez vu comment le monde a été paralysé, où on n'a plus la possibilité parfois même d'importer des médicaments ou des vaccins. Et je crois que si nous avons la capacité de produire localement les vaccins, ça nous permet de répondre aux urgences des épidémies comme COVID.
Vaccins en Afrique pour l'Afrique. Est-ce que ces initiatives peuvent rassurer les Africains à accepter ce vaccin et à se faire vacciner?
Je crois que c'est à nous, Africains, de nous approprier de cette initiative ou de chercher des ressources pour pouvoir développer des vaccins, que ce soit cette initiative ou pas. Et ça, c'est une question de vision et d'engagement politique. Si nous aussi, nous devons avoir cette vision futuriste, qui fera aussi que l'Afrique pourra être aussi sollicitée non seulement pour produire ce vaccin, et pourquoi pas même pour servir d'autres parties du monde. Mais en même temps aussi, nous devrons être préparés pour pouvoir produire des vaccins localement pour répondre à d'autres épidémies qui peuvent survenir.
Le saviez-vous? Selon des rumeurs, le gel hydroalcoolique peut provoquer des cancers. Professeur Yakuba Toloba, responsable du deuxième centre de prise en charge de COVID-19 à l'hôpital du Point G, affirme que le gel hydroalcoolique, dans sa composition normale, ne peut pas être source de cancer. Toutefois, il précise que l'addition d'autres produits néfastes peut en provoquer. C'est ce qui met fin à l'actu COVID-19 d'aujourd'hui. Merci pour votre aimable écoute. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Voyons à présent ce qui fait l'actualité à l'intérieur du pays. À Gao, 16 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule de transport en commun mercredi dernier vers Tidjalalen. C'est bien sûr dans la région de Gao. Le véhicule quittait la ville de Gao pour le marché hebdomadaire de Ntilit dans la même région. L'inhumation des corps a eu lieu hier jeudi. L'association des amis de la route a remis des panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h à des mosquées, des écoles et marchés mercredi dernier. C'est bien sûr à Sikasso. Selon les donateurs, ce acte vise à réduire la mortalité aux abords des structures de grande affluence. 8h14, cette édition se referme donc avec la présentation Sékou Gadjigo, mise en nom de Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après moi, Aïssata Diarra sera là pour la version Bamanankan. Mais n'oubliez pas, vous pouvez écouter cette édition sur notre site studiotamani.org en appelant au 37 321.